Bonjour.
Alors, je m'appelle Samy, moi j'étais à Télécom Bretagne dans les années 90. Enfin, je suis de promo 97, donc je suis un vieux. En fait, je connaissais pas le NERF, enfin, votre entreprise, mais d'après ce que j'ai compris, en fait, vous faites une sorte d'intermédiaire en fait entre la culture américaine, la culture française, et votre business model en fait c'est de faciliter les échanges et d'aider à s'adapter pour d'aider les entreprises françaises qui veulent s'installer aux US.
Alors même pas s'installer. En fait, je dirais, on a vraiment deux. Je vais attraper la question. On a vraiment deux côtés. On a le côté sécurité qui est aujourd'hui le plus important pour tout le monde. Donc, on travaille avec des compagnies qui nous font confiance pour la safety de leur data. On met des setups en place pour leur assurer que leurs data sont safe et que si jamais il y a un problème, parce que ça peut toujours arriver en technologie, leurs systèmes marcheront rapidement. Donc ça, c'est le premier côté qu'on fait pour eux, qui est un peu un contrat de confiance là, et sur lequel on fait vraiment très attention. C'est notre but principal, c'est la safety des data. Dans le monde où on est aujourd'hui, on doit être meilleur en sécurité que les autres pour y arriver bien. La deuxième partie, et là où on apporte vraiment boîte française, c'est leur permettre de grossir aux États-Unis. C'est pas, il y a le côté où on aide des boîtes qui arrivent, mais on travaille aussi avec des players qui sont là depuis longtemps. En venant, parce qu'on avait beaucoup d'expérience avec des setups qui ressemblent, en venant améliorer ces setups pour leur faire gagner en productivité, mettre en place des nouveaux process, simplifier. On a développé un logiciel en interne pour simplifier tout ce qui est la chaîne order to cash et qui permet d'aller permettre aux employés qui sont là aux États-Unis de venir passer leur temps à développer des avenues de vente plutôt que de faire du travail manuel et de venir perdre du temps sur du manual processing et des ordres mal passés. Donc notre but dans tout ça, c'est de venir rendre la boîte, on va dire, plus profitable aux US et lui permettre de grandir grâce à la technologie, en faire un différenciateur par rapport à la compétition. Voilà, tout simple.
Merci. Ouais. D'accord.
Si je peux ajouter quelque chose
Ça
à ça
répond
aussi,
bien?
en plus de ça, donc voilà, notre but, c'est vraiment, quand des clients nous font confiance, de tout faire pour leur apporter des solutions technologiques à des besoins où des fois, ils ne savaient même pas qu'en technologie, on pouvait répondre à leurs problèmes en interne. Et on va aussi, fort de nos expériences passées, souvent servir d'interface entre des sièges en France qui ont des antennes aux États-Unis ou même au Canada ou vraiment sur notre côté de l'Atlantique, on va dire. Vraiment leur apporter une interface entre les sièges et l'infogérance en France et ces boutiques ou ces antennes aux États-Unis. Donc souvent, en plus, les équipes françaises, des fois, ont des difficultés en anglais ou à cause du décalage horaire, et on va servir un peu de passerelle et aider en fait ces antennes à se développer et à mieux correspondre avec leur siège. C'est un peu les deux rôles qui nous tiennent vraiment à cœur en tant que le net pour nos clients.
D'accord, oui, merci.
Je pense que Nathalie avait une question aussi ou une remarque.
Alors, j'avais une première question qui était, quelle est la moyenne d'âge en fait à l'ENET?
Bonne question, je dirais en moyenne. Si on regarde sur tout le monde, on va dire, je pense qu'on est aux environs de 30 ans, hein. Peut-être même moins. Hein.
Un petit
Moi,
peu en dessous,
je
mais
dirais, un peu moins. Même si on regarde en
j'avais
moyenne, je
27
dirais un
ans.
28. Ouais,
Je
voilà,
pense
par
que
là, ouais.
j'aurais dit 28. J'aurais dit
Et
28
si on
aussi.
fait le calcul, je suis sûr qu'on va être à peu près à cet endroit-là, ouais.
Ouais.
Et la
C'est
valeur
bizarre.
n'attend pas le nombre des années.
Bon,
C'est
ça
approprié.
rassure. Et parmi toutes les diversités qu'on a vues, c'est-à-dire intergénérationnelles, etc., quelle est celle vraiment la première d'après vous qui vraiment singularise l'entreprise ou un emploi qui fait que ça se développe et qui est un vrai levier?
Quelqu'un va répondre?
Je dirais tout en fait. C'est vraiment non, mais en fait, donc voilà, comme on l'a vu, il y a plusieurs cultures qui vont se mélanger. On va avoir une équipe qui est d'hommes, de femmes, différentes générations qui vont venir, et toutes ces expériences qu'on peut avoir de partout, de toute notre équipe, a fait de l'Honnête qu'elle est aujourd'hui. Et encore aujourd'hui, tous les jours, on évolue grâce aux remarques de tout le monde. Donc je pense que c'est un peu dur de choisir en particulier une, même si je pense celle qui est le plus représentée à l'Honnête, c'est le multiculturalisme. Très dur à dire ce mot, le multiculturalisme, parce que vraiment, c'est pour nous, on met vraiment l'accent sur toutes ces cultures différentes. Ça nous permet vraiment de toucher tout le monde, de mieux comprendre vraiment tout ce qui se passe autour de nous. Et je pense que c'est celle qui représente le plus l'Honnête. Je ne sais pas si tu es d'accord, Olivier.
Et alors, moi, je vais même. On a cinq valeurs à l'Honnête qu'on essaye de garder quand on embauche des personnes, qu'on vérifie avec chaque employé chaque quarter. Donc, c'est important les valeurs pour une boîte. On a intégrité, wow factor, team player, innovative technology et global citizen. Le global citizen, c'est exactement ça. C'est comment on l'a défini, parce que pour chaque phrase, on l'a défini bien. Et nous, le global citizen, on l'a défini en work with others to make our planet more equal, diverse and sustainable. Voilà, c'est chaque personne qu'on a en interne doit adhérer à cette valeur. C'est pas qu'on le force, c'est qu'on va choisir des gens qui ont ça en fibre à l'intérieur parce qu'on a besoin de tout ça. On a besoin de ce côté, on est tous égaux, la diversité, c'est même pas une question, et on est sustainable. On a besoin de gens qui care, on a besoin de gens qui care, qui ont vraiment à l'intérieur l'envie de faire le bien. Donc c'est pour ça, c'est dans les valeurs, et on fait attention à avoir que des gens qui adhèrent à cette valeur.
Très bien.
Ça répond bien ?
Très bien.
Merci, Nathalie.
Je pense qu'il y avait une question de Florian Fauché aussi. Je ne sais pas s'il veut la présenter.
Non, pas ça, celle-là. Mets pas la question de Florian, là.
Non, mais...
Comment ça va, toi?
J'ai perdu des cheveux, mais pas toi.
Ouais, c'est depuis que je suis remarié, ça repousse.
Non, moi, je me présente rapidement. J'ai fini Télécom en 2013. Je suis allé bosser avec Olivier en 2011. Uh-huh. Donc c'était, je pense, d'autres bureaux et une plus petite équipe, de ce que je comprends. Et en fait, donc là, aujourd'hui, je suis revenu en France après être passé par Singapour et par l'Angleterre. Je fais mon MBA à HEC en ce moment. Du coup, je voulais te demander en fait des profils que tu as vus au fil des années et puis de l'équipe que tu as constituée. Qu'est-ce que tu penses des compétences qui manquent, que ce soit business ou tech, hein, des gens qui te rejoignent et qui potentiellement du coup seraient intégrés selon toi sur les deux premières années de Télécom?
C'est une très bonne question.
Te font chier, mais
j'en ai déjà parlé avec. Ouais, c'est bien, t'as des bonnes questions. J'en ai déjà parlé avec Bernard Gorvenac de ça. C'est qu'est-ce qu'il faut rajouter dans le cursus de l'école pour avoir des gens qui sont mieux préparés en arrivant au niveau de l'entreprise. C'est une très bonne question. C'est dur à définir. Je sais que quand les gens arrivent, on a beaucoup à leur apprendre, même techniquement. L'école permet d'avoir une tête bien faite et d'avoir une sélection pour être sûr que tout le monde a une tête bien faite. Maintenant, on apprend des choses en technologie, on se prépare à comprendre, mais je pense qu'on manque un petit peu de hands-on, on manque d'applicatifs, on se retrouve avec des gens qui sont très théoriques et pas assez pratiques, on va dire. Il manque un côté pratique un petit peu à l'arrivée. Alors après, on peut tout apprendre en technologie. On peut tout apprendre à quelqu'un en technologie aujourd'hui. Ce qui s'apprend pas, c'est les autres côtés. C'est l'intégrité, c'est le fait d'être un global citizen, c'est Et ça, c'est des valeurs personnelles. Et je dirais que chacun devrait travailler sur ses valeurs personnelles, même à l'école, prendre des bouquins, s'améliorer. Aller sur Amazon, regarder les livres qui ont au moins 100 reviews et qui ont au moins 4.5 et qui ont été écrits dans les 5 dernières années. Faut pas hésiter. Le savoir est dans les livres. C'est pas forcément les livres qu'on vous demande de lire à l'école. Ils sont importants à lire, mais c'est pas forcément cela. Choisissez un sujet, réfléchissez à ce que vous voulez apprendre, à qui vous voulez devenir. Et choisissez les livres en conséquence parce que c'est ça qui va vous faire avancer. Voilà, si j'ai un conseil à donner, ouais, le savoir est dans les livres. On est déjà à un bon endroit. Si j'avais su ça plus tôt, on serait encore plus loin. Ça, c'est un bon conseil. Et Florian, je vais reprendre un truc que tu as dit quand tu étais chez nous. On a beaucoup de gens qui sont passés par chez nous de télécom qui ont des belles carrières, qui comme Florian là, qui a un profil très très fort et qui va un profil très fort toute sa vie. Les gens qui sont passés par chez nous ont souvent derrière bien réussi. Et Florian, tu avais dit quand t'étais là, tu avais dit le net c'est facile, ou c'était net docteur à l'époque, on a changé de nom entre les deux. Net docteur c'est facile, c'est la prépa du travail. C'est une fois que t'es passé par là, tu peux prendre n'importe quoi, ça a l'air facile. donc voilà, c'est ça qu'on fait. On n'est pas là pour rigoler, c'est pas facile. On travaille sur un truc compliqué, mais on travaille bien et après tout a l'air facile, comme la prépa, avant d'arriver en école. Donc voilà, ouais, je pense qu'il y a chacun doit travailler sur ses skills personnels. Après, on choisit des gens pour leur qualité plus personnelle que même leur qualité technique. Vraiment, c'est important ça. On choisit les gens pour qui ils sont. On choisit pas les gens pour ce qu'ils savent. Et ça, c'est important, c'est très important. Et voilà. Et on donne la chance aux gens aussi. On donne la chance aux gens. Et les gens qui sont forts, on leur dit qu'ils sont forts. On a un track record là-dessus, un track record, quelque chose où on peut vraiment prouver, on peut montrer. Et Maureen est un bel exemple. Hein. Maureen qui avait envie de quitter l'école.
Maureen avait quitté l'école. Exactement. C'est pour ça que je souriais pendant ton speech.
C'était pas fait pour elle. C'était pas fait pour elle, la technologie. Donc,
exactement.
Voilà, donc elle est venue et voilà.
Olivier a vraiment un profil pour discerner les gens et aussi c'est un très bon mentor qui prend les gens sous son aile et qui les pousse à atteindre les niveaux qu'ils ont envie d'avoir et pas les niveaux qu'ils pensent qu'ils puissent avoir. Et je pense que toute l'équipe ici, toute l'équipe Le Net, même ceux qui ne sont pas présents, ont le même discours sur Le Net et sur les employés de Le Net. C'est qu'il y a, voilà, vu que les entretiens se passent pour choisir les gens sur leurs valeurs et non sur leurs capacités techniques ou leur background, leur expérience, leur âge, tout ça, on s'en fout, mais presque. C'est vraiment les valeurs des gens. Et si ces valeurs correspondent aux valeurs de la boîte, à ce moment-là, tout le monde s'entraide après pour atteindre le niveau technique. Tout le monde peut apprendre la technique. Donc, je pense que c'est ça, une des grosses forces. Et ça, je ne sais pas si on peut l'apprendre à l'école. Mais
c'est pour ça, en tout cas, ça aide.
Il faut prendre des livres. Olivier me pousse à lire un livre une fois au moins tous les deux mois. Ça marche bien. Ça aide.
Ça marche bien. Ça fait longtemps que tout le monde le dit, il faut lire des livres. Mais personne ne le fait vraiment. C'est plus utile que de regarder Facebook.
J'avais une question aussi pour les employés de Le Net, mais aussi par exemple Florian qui a beaucoup voyagé. Par exemple, pour les personnes qui ont travaillé dans différents pays, quel est le pays où vous avez préféré travailler et pourquoi, pour quelle raison? Qu'est-ce qui fait que c'est un environnement de travail où c'est agréable de travailler, quoi? Donc, je sais qu'Olivier a beaucoup voyagé avant de s'installer aux US, Merwan qui a travaillé en France et aux US, Hamza aussi, n'importe qui veut répondre.
je sais pas si j'ai vraiment un élément de réponse à ta question. Donc, j'ai travaillé aux US avec Olivier à Singapour pendant 4 ans et au Royaume-Uni pendant 3 ans. En fait, je trouve que chaque pays a vraiment des gros avantages et des gros inconvénients. Comme tu vois, par exemple, Olivier disait le feedback qui est donné à un employé aux États-Unis, c'est très enrobé, etc. Pardon, aux États-Unis, au Royaume-Uni, c'est la même chose. C'est-à-dire que les gens, avant de te dire que ben, peut-être il y avait un truc négatif, ça fait des allers-retours, quoi. Et en tant que Français, c'est assez énervant. Après, il y a des choses qui sont super bien de bosser au Royaume-Uni. C'est-à-dire que c'est très business focus. On va au point et voilà, on est assez efficace dans ce domaine-là. Aux États-Unis, c'était en fait ce qui m'avait choqué. Dans le bon sens, en quelque sorte, c'est qu'il n'y avait pas vraiment de discontinuité entre le business et après la vie sociale, en quelque sorte. C'est-à-dire que bah, des fois, ouais, on allait au bar, on allait boire des coups et on parlait business avec d'autres gens. Olivier, je ne sais pas si tu es toujours en contact avec Merdat.
On a eu un cubillard hier.
mais en fait, j'avais l'impression qu'aux États-Unis, le business ne s'arrêtait jamais. Et c'est ce qui est une chose très positive, en fait. Ça dépend vraiment ce qu'on cherche. Je dirais pas qu'il y ait de pays préféré. Après, Singapour, c'était très, très spécifique. Olivier, tu as vécu à Singapour, donc je pense que tu sais exactement.
C'est agréable. De quoi Singapour, je parle. C'est agréable.
C'est très agréable. C'est un choc culturel qui est adouci en quelque sorte parce que c'est assez occidentalisé. Et Singapour, ça va très vite, c'est le centre de l'Asie. Les États-Unis, c'est le centre. On se sent vraiment au centre du monde dans plein de façons différentes. Donc, pas vraiment de pays préférés, mais des gros avantages à chacun et des gros inconvénients à chacun. Tu parlais du manque de vacances aux États-Unis. Je connais des gens qui ont fait des burn-out après burn-out, parce que, pas forcément dans l'IT, mais tu vois, qui étaient lawyers à New York et qui ont fait burn-out sur burn-out. Et du coup, eux, ils prennent un an de vacances tous les deux ans qu'ils travaillent. Donc, c'est ça, en fait, leur façon de prendre des vacances, quoi.
Moi, la réponse à cette question, en fait, c'est d'avoir travaillé avec beaucoup d'expatriés, de gens qui ont fait de nombreux pays. C'est un pays que je n'ai pas fait. Mais tous les gens qui sont partis en Australie ont dit que c'est des gens qui ont fait beaucoup d'expatriation. On dit que c'était le meilleur pays qu'ils ont fait. Donc, c'est un truc récurrent. Je pense que l'Australie est un très bon pays. Alors, et à chaque fois, la réponse derrière, la suite de la discussion, c'est la même. C'est l'une des meilleures expatriations, mais c'est très loin. Tu te retrouves tout seul, très loin et difficilement accessible. Mais je pense que l'Australie est un des meilleurs endroits. Singapour, c'est exceptionnel aussi. Et ouais, comme Florian disait, il y a toujours les pour et les contre dans chaque pays. Au final, il faut choisir un pays, s'y installer, y vivre un moment et changer au moment où on en est fatigué. Voilà. Et en fonction de ce qu'on peut faire aussi, hein, il y a derrière, après, il y a des enfants, il y a des familles, donc chacun fait ce qu'il peut. Mais un conseil, parce que je pense qu'on a des jeunes qui regardent, et c'est un conseil que j'ai donné à Florian quand il travaillait chez nous, ou qu'il voulait partir à l'étranger. J'aurais aimé qu'il vienne retravailler chez nous, et je lui avais dit, mais il avait la fibre de voyager. Je lui ai dit, n'hésite pas à partir à Singapour, n'hésite pas à partir. C'était un des exemples, et il a regardé par tout le monde. Mais il faut, au moment où on est encore on a encore la possibilité de le faire facilement, d'aller voyager, ouais, d'aller se retrouver dans des pays différents. Il faut se lancer juste à la sortie de l'école. Il ne faut pas attendre avant de se retrouver avec des enfants, des familles, des copines, des choses qui vont, des copains, pardon, l'un ou l'autre, qui vont faire en sorte qu'on va être coincé quelque part. On ne pourra plus bouger. Il faut vite bouger, vite aller profiter, parce que c'est des expériences culturelles qui font grandir et qui permettent d'avoir une vision différente. Il faut s'enlever de son système et aller en comprendre d'autres pour vraiment comprendre qui on est, même en tant que Français. On ne peut pas comprendre en étant depuis la France. Ouais. Il faut se dire comment c'est autre part et comment je peux comparer maintenant. Une fois qu'on peut comparer, on comprend qui on est. C'est important pour tout le monde d'aller faire un tour. Pour tous ceux qui ont l'occasion, qui ont la possibilité, il ne faut pas hésiter. Il faut pousser pour le faire, parce qu'on en vient changer.
Je pense que tu as parlé de l'Australie, ça doit rassurer Victoire, qui a prévu d'aller là-bas dès que les frontières réouvrent.
Victoire, je confirme, j'ai fait 6 mois là-bas l'année dernière, et sans le Covid, je serais, normalement, je suis en Australie actuellement, mon stage. Du coup, je recommande. En vrai, exceptionnel. Les gens là-bas sont hyper sympas, hyper cool, très chill par rapport à même la France. Ouf. Et ouais.
Voilà, conseil pour tout le monde, aller en Australie.
C'est quand qu'on aura un bureau en Australie, du coup, Olivier?
Je sais pas, bah on va voir avec Victoire. Hein. On va voir avec Victoire. Tu le fais signe quand t'es là-bas.
Ouais, le seul problème, c'est que c'est loin, quoi. Mais tout le monde dit ça, mais bon, en vrai, le pays compense.
C'est bien, mais c'est loin.
Voilà. Et bah, d'ailleurs, j'avais une question, du coup, juste sur la diversité, en fait. Bah, j'ai l'impression que. Olivier, surtout dans ta boîte et dans tes valeurs, en fait, tu prônes beaucoup le growth mindset, de toujours en fait apprendre chaque jour et de continuer à apprendre même quand on travaille. Et en fait, c'est quelque chose que je partage beaucoup. Et je pense que beaucoup, toutes les entreprises devraient avoir ça. Mais tu dis que c'est naturel, en fait, que la diversité, on devrait même pas se poser la question, c'est naturel. Mais bah, du coup, ma question, est-ce que c'est vraiment naturel ou c'est plutôt la manière en fait dont tu embauches les personnes, oui, bien sûr, mais aussi dont tu les intègres dans la boîte et en fait, comment tu les intègres? Est-ce que ça joue?
Comment on intègre les personnes? C'est une bonne question, encore une fois. Si on part sur le côté team player, je pense que ça c'est vraiment pour répondre à ça, c'est le côté team player. Et ça a été déterminé que pour être un team player, il faut être humble, hungry and smart. Okay, il y a des bouquins qui ont été écrits dessus. Il faut avoir les trois. S'il y en a que deux, ça marche pas. Okay. Si on est humble, hungry, on n'est pas smart, ou s'il en manque juste un sur les trois, ça marche pas. Il faut bien faire attention de garder des équipes avec uniquement des team players. Bien faire attention partout. Et on le voit, tout le monde le voit, tout le monde a déjà vu des gens dans son entourage professionnel qui ne sont pas des team players, ça impacte énormément. Tout le monde, d'un coup. Tout le monde. Il en suffit d'un, ça impacte tout le monde. Des gens qui ne vont pas prendre la critique, qui vont se sentir agressés parce qu'ils ne sont pas assez sûrs de leur... Ils ne sont pas assez confiants en eux quand on dit quelque chose. Des gens qui ne vont pas s'adapter pour parler à la personne en face de la façon dont la personne en face peut les comprendre. Il faut... Pour que ça marche, il faut prendre des décisions difficiles parfois de repérer quelqu'un qui pourrait ne pas être un team player pour pouvoir l'enlever et arriver à un groupe, à des discussions, à des ensembles de gens qui travaillent ensemble, qui peuvent avoir entière confiance dans l'autre. Donc, je pense que c'est ce point-là qui fait qu'on peut vraiment être vulnérable en meeting, qui fait vraiment qu'on peut avancer bien. Et donc, est-ce que c'est comment on intègre les gens? Je suis pas sûr que c'est la façon dont on les intègre, c'est la façon dont on les choisit. Et c'est la façon dont on leur met devant aussi en disant, voilà, on a besoin de ça. On ne dit pas on a besoin que vous soyez technique. Hein. Quand on essaie de charger des nouveaux, on dit, voilà, vous avez besoin d'être un team player. Et la phrase qui est associée, c'est « We will only hire and keep team players ». Ça, c'est la phrase associée. Parce qu'on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. On ne peut pas avoir quelqu'un qui se couvre derrière les autres, on ne peut pas avoir. Parce que ça impacte toute l'équipe. Ça impacte toute l'équipe, ça stoppe. Ce côté émulation, ça. Voilà. Je pense que c'est ça qui fait. Le côté diversité, mais surtout le côté team player autour. Après, qu'on mette un peu n'importe qui dedans, plus on a diversité, mieux c'est pour faire germer les idées. Mais à la base, on peut prendre que des gens qui ont la même culture. Il faut, en dessous de diversité, il faut déjà avoir mis que des team players. Pour que ça marche.
Et je peux en témoigner, je suis le dernier à avoir passé l'entretien d'embauche pour le net. C'est une autre méthode, c'est totalement différent. On fournit un CV, c'est qu'on. Olivier savait ce que je savais faire, ce que je ne savais pas faire, mais on n'en a pas forcément trop discuté. Ce qu'il voulait savoir, c'était qui on est, comment on fonctionne et si on s'adaptera à l'équipe. Voilà, une question que je me souviens très très bien lors de l'entretien, c'était qu'est-ce que tu fais quand tu es en voiture?
Non, à quoi tu penses? À quoi tu penses quand tu es tout seul en voiture? La question exacte. Et voilà, à quoi tu penses quand tu es tout seul en voiture? Ouais, voilà. C'est vrai, c'est une des questions.
Voilà, c'était que des questions comme ça lors du premier
entretien. Comment ça vous préparez? Les gens vont commencer à dire « Ah, ok, j'en ai une là. »
Je passais des entretiens en France au même moment et ça m'a totalement choqué dans le bon sens du terme. Ça m'a totalement choqué d'avoir un entretien comme ça alors que j'avais fait 5 entretiens avant où on parlait de compétences, on parlait de niveau de diplôme, on parlait de ce qu'on savait faire et seulement ça.
Je pense que c'est le gros feedback qu'on a des entretiens à l'ONEP, c'est pourquoi vous ne nous parlez pas de technologie et de technique. Parce que c'est pas important pour nous. Nous, pour ce qui est important, c'est que, voilà, comme tu disais, Victoire, je pense pas qu'on ait besoin d'intégration dans notre équipe, parce qu'en fait, toutes les nouvelles personnes, et j'espère que toutes les nouvelles personnes qui sont dans l'équipe et qui intègrent l'équipe après, on n'a pas besoin d'intégration. Automatiquement, la personne va arriver, va poser des questions, on va s'entraîner tous ensemble. Et voilà, Merwan est arrivé, il dirait que je lui dis « Ah, tu sais comment faire ça ?» Il m'a appris des trucs alors que ça faisait un jour qu'il était là. Et parce qu'on est tous dans un environnement, on se sent totalement safe parce qu'on est juste là pour faire que ça marche tous ensemble. Et il n'y a pas « Ouais, je veux faire ça parce que comme ça, l'autre, il ne le fera pas. » Et non, on est juste là pour que ça marche et que tous ensemble, ça marche. Donc, il y a vraiment une émulation dans cette équipe qui est assez rare et qui est vraiment plaisante à vivre. Parce que voilà, on est tous sur la même longueur d'onde et on veut tous que ça bouge et on est tous là pour travailler tout en rigolant un peu sur le côté parce qu'on aime bien tous rire. une des valeurs, c'est d'ailleurs une des valeurs à l'honnête, c'est wow effect. C'est voilà, il n'y a que des gens qui ont envie que ça marche et qui ont envie que ça marche dans la bonne humeur.
Moi, je vais devoir jump out dans une minute parce que j'ai un autre meeting et je vais terminer sur le fait que une des règles qu'on a, c'est qu'on n'est pas là pour faire le geek technique et aller résoudre les problèmes. Tout seul. Le but, c'est pas d'avoir passé 4 heures à résoudre le problème parce que c'est un gros problème dur technique, non. C'est en tant qu'équipe de l'avoir réduit à 20 minutes. On a réussi à, entre nous, trouver la solution en 20 minutes. C'est peut-être un peu moins geek, c'est peut-être un peu moins, je me fais plaisir techniquement, mais le but du jeu, c'est vraiment ça. C'est pas de venir se faire. C'est bien de se faire plaisir techniquement, mais le but, c'est vraiment les gens qui sont derrière et le service qu'on donne.